du besoin de bâtir de nouvelles normes de justice éducative. L'hypocrisie est ici particulièrement extrême, puisque d'un côté, on crée des dispositifs dits d'éducation prioritaire, mis en place en France au début des années 1980, consistant à désigner des établissements scolaires comme particulièrement défavorisés et nécessitant un soutien appuyé des pouvoirs publics, et de l'autre, on continue en réalité d'allouer de facto des moyens publics plus importants aux territoires les plus favorisés. Des systèmes de primes ont certes été mis en place dans certaines zones prioritaires, mais tout laisse à penser que ces dispositifs, au demeurant peu transparents, ne permettent de compenser qu'une petite partie des énormes écarts de moyens liés au fait que ces établissements comptent des proportions incomparablement plus élevées d'enseignants contractuels et inexpérimentés. Si l'on examinait la totalité des moyens dont bénéficient les élèves en fonction de la position sociale des parents, il est fort probable que l'on trouverait dans de nombreux cas que les moyens les plus importants sont ceux alloués aux établissements et aux élèves socialement les plus favorisés, et en particulier aux lycées les plus prestigieux du centre-ville des grandes agglomérations, où l'on trouve par exemple le plus grand nombre de professeurs agrégés et expérimentés. Une recherche récente a permis de lever une partie du voile et de confirmer ces craintes. Si l'on calcule le salaire moyen des enseignants en fonction dans les différentes écoles, collèges et lycées, en prenant en compte les primes appliquées en zone prioritaire, mais aussi tous les autres éléments de rémunération, liés notamment à l'ancienneté et au diplôme, et au fait d'être titulaire ou contractuel, on constate que la rémunération moyenne est d'autant plus élevée que le pourcentage d'élèves issus de classes sociales favorisées inscrits dans l'établissement est important. La relation est rigoureusement croissante au collège comme au lycée. Les effectifs moyens par classe ayant également tendance à être plus élevés dans les établissements plus favorisés, les deux effets se compensent et la dépense moyenne par élève est presque exactement constante. On peut cependant penser que les élèves des collèges et lycées les plus favorisés sont au final les mieux traités par la puissance publique. Ils sont certes un peu plus nombreux par classe, mais le niveau moyen des élèves est plus élevé. Et surtout, ils bénéficient d'enseignants plus expérimentés, mieux formés et mieux rémunérés. En tout état de cause, le fait même que de telles informations ne soient pas rendues publiques de façon annuelle et systématique et ne servent pas d'appui à une politique évolutive et vérifiable pose de sérieux problèmes. Ceci est d'autant plus regrettable qu'une politique assumée et transparente de ciblage réel des moyens en faveur des établissements les plus défavorisés, en particulier au niveau du primaire, pourrait permettre de réduire substantiellement les inégalités sociales de réussite scolaire. Au-delà de la question des inégalités de moyens, il faut également signaler que la ségrégation sociale a atteint des niveaux extrêmement élevés dans le système éducatif français. Parmi les 85 000 élèves inscrits dans les 175 collèges parisiens, on compte 16% d'élèves issus des catégories sociales les plus défavorisées. Mais, si l'on examine la répartition géographique, on constate que certains collèges comptent moins de 1% d'élèves défavorisés, alors que d'autres en comptent plus de 60%. Parmi les collèges presque entièrement fermés aux catégories les plus populaires, on trouve une grande majorité de collèges privés, qui regroupent plus du tiers des collégiens à Paris et qui ont l'étonnante particularité en France d'être financés presque entièrement sur fonds publics, tout en conservant la possibilité de choisir leurs élèves comme ils l'entendent, sans aucune obligation de suivre la moindre règle commune. Mais on trouve également de nombreux collèges publics, comptant à peine quelques pourcents d'élèves défavorisés, alors que d'autres collèges publics situés une ou deux stations de métro plus loin en comptent plus de la moitié. Cette situation s'explique par la très forte ségrégation résidentielle, par le contournement de la carte scolaire, par le recours au privé, et plus encore, par l'absence d'une véritable politique publique visant à changer cette situation. Des expériences récentes ont pourtant montré que des algorithmes d'affectation plus transparents et mieux conçus pourraient permettre d'aboutir à une réelle mixité sociale. Il ne s'agit pas de prétendre ici que ces différents éléments expliquent à eux seuls le retournement du clivage éducatif observé au cours des dernières décennies et que les catégories sociales les plus défavorisées se soient senties de plus en plus mal représentées par les partis de gauche. Mais il paraît clair que des inégalités éducatives aussi criantes ont pu contribuer à une certaine défiance vis-à-vis des gouvernements socialistes au pouvoir et à forger l'impression selon laquelle ces derniers se souciaient davantage des couches les plus diplômées et de leurs enfants que de ceux des catégories modestes. Depuis la crise financière de 2008, la stagnation des budgets éducatifs a fortement contribué à accroître les frustrations, en particulier au sein des jeunes issus des classes populaires, auxquels on avait laissé entendre que les efforts scolaires et l'obtention du baccalauréat ouvriraient rapidement les portes de l'enseignement supérieur et de l'emploi. De fait, la proportion d'une génération atteignant le baccalauréat, qui était d'à peine 30% dans les années 1980, a atteint 60% en 2000 et près de 80% en 2018, en particulier du fait de la très forte croissance du nombre de bacheliers technologiques. Le nombre d'étudiants a augmenté de 20% de 2008 à 2018, passant d'à peine 2,2 millions à près de 2,7 millions d'étudiants. Le problème est que les ressources investies n'ont pas suivi. Elles ont progressé d'à peine 10% en termes réels, en sus de l'inflation entre ces deux dates, ce qui signifie que le budget par étudiant a diminué de 10%. Les moyens disponibles pour les étudiants admis dans les filières élitistes et sélectives, le plus souvent issus de catégories favorisées, ont certes été préservés. En revanche, les étudiants des filières universitaires se sont retrouvés avec des conditions d'études peu conformes aux promesses qui leur avaient été faites. Par exemple, en dépit de la très rapide croissance du nombre de bacheliers technologiques et professionnels, le nombre de places dans les instituts universitaires de technologie, IUT, n'a quasiment pas augmenté, faute de moyens. Les tensions créées par cette situation sont d'autant plus vives que les places dans ces formations sont également demandées par des bacheliers généraux, souvent issus de milieux plus favorisés, mais qui, faute de pouvoir tous accéder aux filières bien dotées des classes préparatoires, préfèrent souvent aller en IUT plutôt que dans les filières universitaires générales, où l'encadrement est particulièrement faible et les débouchés professionnels parfois incertains. Le caractère explosif d'une telle situation, ainsi que le retournement du clivage politique qu'il met en jeu, ont récemment été croqués par la fiction. La série Baron Noir, 2016, met ainsi en scène un peu reluisant président socialiste, aidé par un député du Nord légèrement corrompu, Philippe Rigvert, qui tente de redorer le blason social du gouvernement de gauche à l'aide d'une mesure emblématique de justice éducative. Il soutient pour cela la revendication d'un groupe de bacheliers professionnels issus de banlieues parisiennes qui souhaitent obtenir des quotas de place dans les IUT, où ils se sentent injustement évincés par les bacheliers généraux. Rigvert ira même jusqu'à défendre la mesure, vêtu d'un bleu de travail à l'Assemblée nationale, en expliquant que c'est l'honneur de la gauche de retrouver le sens du social et des catégories populaires. Mais tout ceci n'est pas du tout du goût de la jeunesse dorée du parti, et en particulier des militants du MJS, Mouvement des Jeunes Socialistes, qui, comme il se doit, sont issus des lycées généraux les plus huppés du centre de la capitale et vont jusqu'à infiltrer les AG des lycéens professionnels de banlieue afin de faire capoter leur mouvement. Un peu plus tard, le leader des lycéens professionnels sera définitivement compromis par des photos indiquant qu'il n'était pas loin d'accepter de figurer sur une liste du parti de droite aux futures élections européennes. C'est bien la preuve que seuls d'authentiques bacheliers généraux sont à même de défendre les valeurs de la gauche brahmane, loin des compromissions des parvenus de l'enseignement professionnel. Cette fiction a également le mérite de mettre en scène un acteur qui est sans nul doute appelé à jouer un rôle croissant à l'avenir dans les débats autour de la justice éducative, les algorithmes d'affectation des élèves et étudiants dans les différentes filières. Par rapport à une situation pas si ancienne, et encore répandue dans de nombreux pays, où chacun utilisait ses relations personnelles pour faire admettre ses enfants dans le lycée ou l'université de son choix, il est difficile de nier que ces algorithmes anonymes peuvent représenter un progrès social et démocratique. À condition toutefois qu'ils fassent l'objet d'une appropriation citoyenne et d'un débat transparent, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Par exemple, la réforme de l'algorithme national d'affectation des bacheliers dans l'enseignement supérieur, avec le remplacement d'APB par Parcoursup en 2018, a conduit à l'introduction de quotas sociaux dans les classes préparatoires, ce qui, potentiellement, peut être une mesure utile de justice sociale. mais le paramétrage de ces quotas reste totalement obscur et ne concerne que les bacheliers boursiers, soit moins de 20% des élèves, avec de fortes discontinuités vis-à-vis des élèves dont les revenus parentaux sont légèrement supérieurs, de même d'ailleurs que les plateformes AffleNet d'affectation des élèves dans les lycées. Si l'on souhaite bâtir des normes de justice acceptables par le plus grand nombre, il est sans doute préférable d'envisager un système prenant en compte les origines sociales d'une façon plus graduelle et continue, et surtout d'une façon plus transparente. Il est intéressant de noter que l'Inde, qui utilise à grande échelle ces mécanismes de quotas et de réservation depuis des décennies, est d'une certaine façon plus avancée que les pays occidentaux sur ces questions. Convenablement utilisés, ces outils démocratiques pourraient permettre de dépasser les impasses des débats éducatifs des dernières décennies. De la propriété, de la gauche et de la droite. Venons-en maintenant à l'évolution des clivages électoraux et politiques vis-à-vis des inégalités de revenus et de patrimoine. Commençons par examiner le profil du vote pour la gauche électorale en fonction du revenu et de son évolution des années 1950 aux années 2010. Voir graphique 14.12. Il est frappant de constater que ce profil a toujours été relativement plat parmi les 90% des revenus les moins élevés, avec peu de variations dans le soutien moyen apporté aux partis de gauche, mais fortement décroissant au sein des 10% les plus élevés, particulièrement des années 1950 aux années 1970. Par exemple, lors des législatives de 1978, la gauche électorale dépasse nettement 50% des voix au sein de la plupart des déciles de revenus, mais chute brutalement dans le décil supérieur et tombe à moins de 20% des voix au sein des 1% des revenus les plus élevés. À partir des années 1990 et 2000, la pente devient de moins en moins marquée. Lors de la présidentielle de 2012, le candidat socialiste obtient quasiment 50% des voix parmi les 10% des revenus les plus élevés et près de 40% des voix au sein du centile supérieur. Cet aplatissement de la courbe est la conséquence logique du fait que le vote à gauche est alors devenu nettement dominant parmi les plus diplômés. On notera toutefois que les plus hauts revenus continuent jusqu'aux années 2010 de favoriser les partis de droite, contrairement aux plus hauts diplômés. Autrement dit, la structure des clivages partisans a basculé à partir des années 1990-2000 dans un système d'élites multiples. Les plus hauts diplômés votent à gauche, alors que les plus hauts revenus votent à droite. Toute la question est de savoir combien de temps durera une telle situation. Par exemple, on peut penser que les plus diplômés finiront par obtenir les plus hauts revenus et par accumuler les plus hauts patrimoines, et peut-être aussi par attirer dans leur coalition politique les plus hauts revenus et patrimoines qui n'ont pas les plus hauts diplômes, si bien que les élites multiples finiront par se réunir dans un même parti. Une telle hypothèse est loin d'être exclue, et nous verrons qu'elle n'est pas loin d'être réalisée, notamment en France et aux États-Unis. Les choses sont cependant plus complexes. En particulier, deux raisons centrales contribuent à expliquer pourquoi les hauts diplômés et les hauts revenus ne votent pas nécessairement pour les mêmes partis. Par exemple, lors de l'élection présidentielle et des élections législatives de 2012, et pourraient continuer d'occuper des terrains différents à l'avenir, ce qui ne les empêche pas de s'accorder le cas échéant sur de nombreux points, en particulier sur le fait que la réduction des inégalités n'est pas la priorité. D'une part, pour un niveau de diplôme donné, les personnes qui parviennent à mieux monétiser leur diplôme avec un salaire plus élevé, soit parce qu'elles ont choisi des carrières plus rémunératrices, par exemple dans le secteur privé plutôt que dans le secteur public, ou bien dans des métiers plus rémunérateurs à l'intérieur de chaque secteur, soit parce qu'elles ont eu davantage de succès dans leur promotion et dans leur trajectoire. Les données disponibles ne permettent pas de séparer ces différentes situations. Ont clairement tendance à voter plus souvent à droite. Cela peut être dû à un intérêt bien compris, dans la mesure où les partis de droite proposent généralement des impôts moins élevés sur les plus hauts revenus, ou plus généralement à une vision du monde mettant davantage l'accent sur le poids de l'effort individuel dans la réussite monétaire. Autrement dit, la gauche brahmane et la droite marchande sont porteuses d'expériences et d'aspirations qui ne sont pas exactement les mêmes. La première valorise la réussite scolaire, le goût du travail intellectuel, l'acquisition de diplômes et de connaissances. La seconde s'appuie davantage sur la motivation professionnelle, le sens des affaires, les négociations rondement menées. Chacune s'appuie à sa façon sur une idéologie du mérite et de l'inégalité juste. Mais la forme des efforts demandés et des récompenses accordées n'est pas exactement la même dans les deux cas. D'autre part, toujours pour un niveau de diplôme donné, certaines personnes ont des revenus plus élevés car elles disposent d'un patrimoine plus élevé, ce qui leur apporte des revenus issus de leur capital, loyers, intérêts, dividendes, etc. Ou bien leur permet de monétiser plus efficacement leur diplôme en exerçant une profession non salariée exigeant un investissement important ou en dirigeant une entreprise, familiale ou non. De fait, de façon générale, la détention d'un patrimoine apparaît pour toutes les périodes et tous les pays pour lesquels des données adéquates sont disponibles comme un déterminant du vote beaucoup plus puissant que le revenu ou le diplôme. En particulier, la courbe du vote pour les partis de gauche en fonction du décile de patrimoine apparaît beaucoup plus pentue que celle vis-à-vis du décile de revenu. Voir graphique 14.13. Par exemple, lors des élections législatives de 1978, le vote à gauche tombe à guère plus de 10% parmi les électeurs disposant des 1% des patrimoines les plus élevés, soit près de 90% de vote à droite au sein de ce groupe, alors qu'il est de près de 70% parmi les électeurs disposant des 10% des patrimoines les plus faibles. Autrement dit, la détention patrimoniale apparaît comme un déterminant quasiment implacable de l'attitude politique. Les plus riches en patrimoine ne votent presque jamais à gauche, et les plus pauvres en patrimoine votent très rarement à droite. Ce lien s'est amoindri entre les années 1970 et les années 2010, tout en restant beaucoup plus marqué que pour le revenu. Ce rôle déterminant de la propriété dans la structure des attitudes politiques ne saurait surprendre. La question du régime de propriété a constitué au XIXe et XXe siècle le sujet central du conflit politico-idéologique, et ce n'est qu'à partir de la fin du XXe siècle que la question du diplôme et du régime éducatif a pris une importance comparable. Historiquement, c'est autour de la défense de la propriété privée, et d'une façon limitée autour de sa redistribution, que s'est bâti au XIXe siècle le régime politique issu de la Révolution française, que nous avons déjà largement étudié. Dans son « Tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République », publié en 1913, le politiste et géographe André Siegfried entreprit une étude systématique et minutieuse des votes observés des législatives de 1871 à celle de 1910, canton par canton, en fonction notamment des données issues de la contribution foncière portant sur la répartition des surfaces agricoles et des résultats d'une vaste enquête ministérielle sur la scolarisation des jeunes filles dans les écoles publiques et privées. Ces conclusions sont parfaitement claires. Dans les cantons où les redistributions opérées pendant la Révolution ont permis la constitution d'une petite propriété terrienne, les paysans votent pour les partis républicains, qui à l'époque constituent la gauche de l'échiquier politique, le parti radical étant le plus convaincu d'entre eux, le plus radicalement républicain. À l'inverse, dans les cantons où la propriété terrienne est restée concentrée entre les mains de grands propriétaires, souvent d'origine noble, et où l'Église a conservé son influence, notamment au travers de sa mainmise sur les institutions scolaires, les électeurs plébiscitent les candidats monarchiques et conservateurs. On observe même dans les cantons les plus conservateurs, par exemple dans le Léon, en Bretagne du Nord-Ouest, d'étonnantes compétitions législatives entre des curés et des aristocrates, par exemple entre l'abbé Guéraud et le comte de Blois en 1897. Les représentants de l'ancienne classe cléricale sortent souvent vainqueurs de ces compétitions, tant l'attachement des populations à ces élites locales et religieuses traditionnelles est profond. Siegfried décrit un monde où l'emprise rassurante de l'ordre trifonctionnel ancien reste très forte, et où les électeurs continuent de s'en remettre au château et au presbytère, ne sachant pas trop ce que les républicains de la capitale comptent faire d'eux, tant qu'ils n'ont pas fait une expérience pratique et concrète de leur pouvoir.